Donc alors, je vais vous dire ce qui se passe dans la tête de l'animateur d'habitude et que d'habitude auquel vous n'avez pas accès. Alors d'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 jours avant? Dans les 2 jours avant, je me disais, bon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pendant ces 4 jours? Et j'avais quelques grandes lignes qui étaient, il faudra probablement qu'on travaille sur la relation entre co-animateurs. Il faudra peut-être qu'on trouve un petit peu de temps pour aussi un temps créatif, que chacun puisse puiser à l'intérieur de soi la possibilité de créer. Et puis surtout, je me disais, bon, ben, on va faire plein de choses techniques, s'entraîner à dire des exercices, à les faire les uns aux autres, etc. Voilà, donc ça c'était il y a 2 jours. Et puis hier soir, je me disais, bon, alors ils vont être enthousiastes. On va travailler sur l'enthousiasme, sur l'énergie, sur la joie. Bah, je comprends ça parce qu'avec le trésor qu'ils sont en train de découvrir, c'est normal, ils vont être complètement enthousiastes. Donc on va travailler sur la pêche, etc. Bon, c'est ce que je me disais hier soir. Et puis ce matin, en venant en voiture, et c'est là où, en général, où je commence à me brancher sur le groupe et à sentir qu'est-ce qui se passe dans le groupe. Ce matin, en venant en voiture, j'étais pas dans l'enthousiasme. J'avais la trouille, j'avais peur. Je me disais, punaise, si ça se trouve, ça, je vais pas y arriver, ils vont pas trouver ça intéressant, ça va pas être bien. Je vais peut-être même pas savoir quoi faire, etc. Bon. Me connaissant, je me suis dit, ça, c'est le sentiment du groupe. C'est probablement le sentiment du groupe. Mais en tout cas, c'était plus ni l'enthousiasme auquel je croyais, qui était un peu une espèce de construction mentale, ou tout au moins ce que j'aurais aimé qu'il soit, ni quelque chose de très technique, c'était j'ai la trouille, quoi. J'ai la trouille et je vais peut-être pas y arriver. Ça, c'était dans la voiture, en montant. Et puis ensuite, durant le temps de réflexion silencieuse, de temps centré avant la mise en commun, j'avais encore cette peur. L'image qui me venait, c'était animer un groupe, c'est comme rentrer dans la cage aux fauves. C'est-à-dire qu'il y a un vrai danger d'être dévoré par les lions, ou éventuellement de faire un beau spectacle passionnant avec des tas de choses qui font vibrer la foule, mais en attendant, il y avait ce côté rentrer dans la cage aux lions. Donc ça confirmait à l'intérieur de moi le fait qu'il y avait à travailler sur la question de la peur. Voyez, alors donc, vous voyez, ce premier temps, c'est d'abord faire attention à ce qui se passe en soi et remarquer dans ce que je dis que la seule chose qui était vraiment pertinente, c'est ce qu'on a comme émotion et comme image juste avant, et pas tellement ce qu'on a pu élaborer d'avance, comme quoi, tiens, ce serait bien qu'il fasse comme ci ou comme ça ou comme ça. Ensuite, une autre chose qui est intéressante, c'est souvent, de même que le premier rêve éveillé dans une cure IRE est souvent très significatif de l'ensemble de la problématique de la personne, de même, assez souvent, la première personne qui parle est significative de quelque chose d'important pour le groupe. Pas toujours, c'est pas automatique, mais quand même, c'est souvent le cas. Et là, la première personne qui parle, donc, c'est Robert. Et Robert qui parle d'abord du fait que, bizarrement ici, il dort bien mieux, il dort bien plus longtemps, il se rendort, etc. Et petit à petit, ce qui apparaît, en tout cas ce qui m'apparaît, c'est qu'il y a le côté sécurisant et de bonheur qu'on peut avoir à l'intérieur d'un bon groupe qui réveille une bonne imago maternelle de base dans les bras de laquelle on peut s'endormir tranquillement. Et en même temps, ce dont parlait Robert, c'était le fait que c'est quand il était membre du groupe qu'il pouvait vivre ça. Mais que quand il s'imagine en train d'animer le groupe et de prendre ma place, eh bien à ce moment-là, il est dans un danger mortel. Une terreur face au groupe. Donc il rejoint exactement ce que j'avais senti au moment où on rentre dans la cage aux fauves, quoi. Donc ça commence à me dire, tiens, les choses sur lesquelles il va falloir travailler, c'est à la fois comment susciter cette imago maternelle bonne et sécurisante du groupe, et à la fois, surtout, pour eux qui sont en formation, comment faire avec le danger mortel face à un groupe. Et petit à petit, ce qui apparaît au fur et à mesure des partages, c'est que finalement, devenir animateur de groupe, ça mobilise des choses extrêmement nombreuses au point de vue transférentiel. Trois niveaux transférentiels imbriqués. Le transfert sur la fratrie, qui va se jouer avec le co-animateur en partie. Comment je vais faire? Est-ce que je vais être le petit face au grand, comme disait Bernard, ou est-ce que je vais écraser l'autre si je suis puissant? Enfin bref, il y a plein d'enjeux qui se jouent de transfert concernant la fratrie. Un autre niveau de transfert qui est le transfert concernant le père, et plus spécialement un transfert oedipien, c'est-à-dire pouvoir devenir soi-même le père au lieu d'être simplement l'enfant du père ou quelque chose comme ça, avec tout ce que ça réveille évidemment, d'angoisse de castration, de problèmes d'oser sa propre puissance. Donc on retrouve beaucoup ce thème-là dans les partages, c'est-à-dire « oui mais je suis trop petit, oui mais c'est trop pour moi, oui mais je ne suis pas prêt, oui mais il faudrait vraiment que… » etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'enjeux autour de « oser sa puissance » qui réveille des problématiques oedipiennes. Si je montre ma puissance ou si je montre mon désir, eh bien je vais être châtré. Donc, transfert vis-à-vis de la fratrie qui est réveillée, transfert vis-à-vis de l'image du parent, probablement en bonne partie oedipien, en tout cas l'affirmation de sa propre puissance en tant qu'enfant susceptible maintenant de devenir le parent, et puis transfert sur le groupe. Et le groupe, c'est quoi? C'est quand même des enjeux archaïques extrêmement profonds, dans lesquels il y a des enjeux vitaux. C'est la vie ou la mort. Et là, on l'a vu chez plusieurs qui ont évoqué qu'il y avait la vie ou la mort, quoi. C'était vivre ou mourir. Ou même, Marie-Élisabeth, par exemple, c'était tuer l'autre ou être tué. De toute façon, c'est tout à fait vrai. Étant donné que le groupe induit une régression jusqu'à des niveaux extrêmement archaïques, les angoisses liées à ce niveau archaïque sont des angoisses primaires, d'une violence extrême, qui sont des angoisses de vie ou de mort. C'est-à-dire qu'un groupe peut être porteur d'un sentiment de vie et de droit à la vie et de retrouver les sources vitales qui est extrêmement puissant. Mais en même temps, parallèlement, du coup, il peut aussi réveiller des angoisses de mort extrêmement puissantes. Et donc finalement, c'est ça l'enjeu le plus fondamental pour animateur de groupe, puisqu'il s'agit justement de mener le groupe vers la vie et non pas vers la mort. Donc petit à petit, au fur et à mesure de la mise en commun, les lignes qui ressortaient, c'était la gestion du transfert avec la fratrie, donc un travail qu'il faudra faire sur le co-animateur, mais en lien avec l'histoire, la gestion du travail sur l'affirmation de sa propre puissance face aux parents. Et donc là, il faudra élaborer quelque chose concernant la peur de la castration et oser sa propre puissance. Et puis la gestion de la peur archaïque concernant tout ce qui est réveillé par un groupe, c'est-à-dire exactement comme la première personne qui avait parlé, à la fois le danger mortel et à la fois l'amour profondément sécurisant qu'on ne trouve nulle part ailleurs, quasiment. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que les gens parlent, à l'intérieur de vous-même, vous essayez de structurer, de comprendre, de réunir, de synthétiser, de voir quelles sont les lignes qui ressortent. Parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir élaborer les exercices les plus pertinents. Il arrive, c'est très rare en fait, hein, mais il arrive qu'il y ait deux lignes complètement contradictoires à l'intérieur du groupe et que vous ne savez pas trop laquelle doit être choisie. Alors la plupart du temps, vous vous baserez sur ce qui se passe en vous pour savoir vous, qu'est-ce que vous auriez besoin. Mais c'est très rare. Hein. Souvent, c'est plutôt un déficit de votre propre compréhension. C'est-à-dire qu'en réalité, vous êtes en train de survaloriser un truc et qui, du coup, lui donne trop de place par rapport à ce que ça a. Et si vous n'arrivez pas à trouver de ligne qui ressorte, si vous n'y comprenez rien, si vous ne savez pas où vous en êtes, si vous ne savez pas finalement qu'est-ce qu'il faut faire pour ce groupe, et bien là, vous appliquez les trucs que vous avez déjà préparés. Au moins, ça sert de planche de salut. Mais quand même, normalement, si vous voulez faire un groupe vivant, intéressant et qui porte et qui touche sur les choses les plus profondes, il faut que ça soit quand même en rapport avec ce que vous sentez qui ressort de ce groupe et qui doit être travaillé dans ce groupe. Et c'est, en fait, c'est spécifique à chaque groupe et c'est spécifique aussi à l'évolution du groupe. Alors après, une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi je suis intervenu avec certains et pas avec d'autres, avec qui je suis intervenu, avec qui je suis intervenu d'une façon active, etc. Par exemple, je suis intervenu avec Sylvie en insistant assez lourdement sur le fait que, ben ouais, d'accord, elle n'a pas envie, qu'elle se fait traîner ici, mais qu'en réalité, c'est une mauvaise façon de poser la chose et que la bonne façon de poser la chose, c'est de dire elle a choisi, il faut qu'elle fasse son choix, qu'elle le représente comme son choix et non pas quelque chose qui a été obligé de l'extérieur. Bon, pourquoi j'interviens comme ça? Parce que si je laisse Sylvie partir sur ce truc... Il y en a plein d'autres qui vont dire « Oui, mais c'est vrai qu'après tout, je sais pas trop bien pourquoi je viens, je sais pas trop bien pourquoi j'ai fait ça, je me sens plus très motivé, etc. » C'est-à-dire que je stoppe d'emblée la possibilité que la proposition qui est faite par Sylvie, dire « Ah oui, mais finalement, je suis obligé, mais je n'en sais rien, je ne sais pas si je vais... » fasse tache d'huile. Hein. Je remets tout de suite les pendules à l'heure sur ce point-là. Inversement, par exemple, quand Audrey dit « Oui, je fais telle et telle chose, mais en fait, je ne me prépare pas, mais finalement, je sens qu'il faudrait que je me prépare. » Je lui dis « Bon, en somme, tu te prépareras. » Elle dit « Oui. » Pourquoi je dis ça? Qui est une façon de renforcer le mouvement, puisque je m'adresse à une personne du groupe, mais en m'adressant à cette personne du groupe, je m'adresse à l'ensemble du groupe. C'est-à-dire, quelque part, c'est dire « Oui, ok. » Mais vous aurez à vous préparer. Et ça peut faire écho chez chacun. Idem, quand j'interviens auprès de Bernadette pour lui montrer que son enthousiasme qu'elle décode comme ne laisser aucune place à l'autre et tuer l'autre et qu'elle ferait bien de freiner son enthousiasme, ben, le but c'est qu'elle ait le droit à son enthousiasme, autrement dit, le but que vous ayez le droit à l'enthousiasme et que vous commenciez pas à le parasiter avec l'idée « mais si je suis enthousiaste, ça empêche l'autre ». Donc, quand j'interviens pour dire « mais en fait, ton enthousiasme, il est légitime, et c'est pas parce que tu es enthousiaste que tu tues l'autre », d'une certaine manière, je m'adresse au groupe pour dire « vous avez le droit d'être enthousiaste, et vous avez le droit d'être porté par cette belle énergie, sans vous sentir menaçant pour l'autre ». Jocelyne qui dit « Moi, je ne veux pas être comme toi », j'interviens tout de suite. Pourquoi? Parce que, alors là, c'est quelque chose qui devrait être retravaillé avec le groupe. C'est qu'en réalité, à force de ne pas vouloir être comme moi, elle n'est rien du tout. Et en fait, le passage, c'est d'abord être comme l'autre et finalement être soi-même d'une certaine manière. C'est le message habituel qui est je m'appuie d'abord sur une identification avant de la mâcher à ma manière et de la transformer en mon propre style. Mais on ne peut pas s'appuyer sur rien. Or, s'appuyer sur l'identification, c'est en même temps aussi quelque part à la fois reconnaître qu'on a besoin de ça provisoirement, mais aussi être prêt à le dépasser. Donc quand je lui dis « non, tu devras être d'abord comme moi si tu veux pouvoir animer », ben là aussi, je donne une autorisation au groupe de dire on a le droit d'être comme Jean-Marc, même si on veut le remplacer, quoi, quelque part. Quand je demande à Marie-Pierre de clarifier ses peurs, parce qu'elle dit j'ai peur, bon, je lui demande de clarifier. Ben, l'intérêt, c'est que du coup, d'une part pour elle, c'est plus clair, mais pour moi aussi, quelle est cette peur? Et puis on débouche sur un truc très intéressant qui est l'alternative entre l'amour et la mort, à nouveau, quoi. Qui ressortait un peu quelque chose de cet ordre, ou l'amour et la peur, de Marie-Pierre. Donc vous voyez que les différentes interventions sont en général pour renforcer le mouvement qui est celui de la recherche pour lequel le stage a été mis en place, qui sera différent suivant chaque objectif, et pour éviter la contagion de la partie freinatrice qui va être inévitablement présente chez tel ou tel, mais qui peut être plus ou moins encombrante. Par exemple, j'interviens avec Sylvie pour ne pas laisser tout de suite la place à quelque chose qui me semble que beaucoup pourraient vite s'engouffrer dedans. Dire, oh ben oui, oh ben j'avais pas envie, de toute façon, ça, je suis un peu poussé, je me suis mis là-dedans, mais c'est trop pour moi, en fait, finalement non, etc. Par contre, j'aurais pu intervenir avec Françoise Lucas, je me respecte, etc., etc., qui me semble être quelque chose qu'on devra travailler ultérieurement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir choisir et pouvoir faire coexister la force et la peur, et que ce n'est pas parce que j'ai peur que je ne fais pas, et je ne vais pas attendre d'être parfaitement au point pour me lancer, parce que je ne me lancerai jamais. Mais si j'intervenais maintenant, ce serait prématuré, parce que ce n'est pas encore le mouvement, quoi. C'est plutôt de me dire, ben ça, tiens, à un moment donné, il va falloir qu'on le travaille. La question oser, qui a été dit par plusieurs, donc Marie-Laure, l'audace et la sérénité tendue par Brigitte, animus toi bien, qui est revenu chez plusieurs. À un moment donné du stage, il va falloir effectivement ne pas être trop gentil avec soi-même, être capable de s'appuyer aussi bien sur la partie inflexiblement déterminée et qui dit « arrête de chouigner, je m'en fous, j'ai décidé, je le fais », et la partie qui fait attention quand même à sa vulnérabilité, à sa fragilité, à sa sensibilité. Mais c'est ça, être capable de faire. On ne peut pas faire en se respectant et en attendant que les choses soient parfaitement au point, parfaitement mûres, etc. Parce qu'il y a un paradoxe, c'est que c'est en faisant que ça mûrit. Et si on attend d'être mûr pour faire, on ne le fera jamais. Donc, il y a quelque chose là qui est paradoxal. Je ne suis pas prêt, je fais, et justement, je suis prêt. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai demandé de faire la plaquette. Parce que faire la plaquette, c'est déjà commencer une action qui renforce la possibilité de faire cette action. Hein? Donc, au bout du compte, finalement, le thème qui ressort, c'est qu'il va falloir oser sa force. Qu'il va falloir surtout oser grandir. Et ça, moi je suis un peu naïf là-dessus, je m'attends toujours à ce qu'on fasse de la formation. Et en fait, on ne peut jamais faire de la formation, il faut d'abord travailler sur les freins à la formation, sur la partie qui n'est pas prête, sur la partie qui doit grandir, sur la partie qui est trop... Je me dis, c'est des thérapeutes, ils sont expérimentés, on va faire de la formation, apprendre comment dire, etc. Non, il faut d'abord travailler sur, oui, mais moi je ne suis pas prêt, c'est trop pour moi, je n'y arriverai pas, je suis trop petit, etc., etc. Donc, eh ben, je me dis, voilà... Tu vas devoir d'abord travailler avec eux sur qu'est-ce qui va me permettre d'oser, qu'est-ce qui va me permettre de foncer, qu'est-ce qui va me permettre de ne pas trop me ménager non plus, etc. Ce qui fait qu'à la fin de la mise en commun, eh bien, je commence à avoir une perspective sur l'ensemble du stage, c'est-à-dire d'abord travailler les transferts, ensuite travailler l'affirmation de soi, se positionner pour oser puissamment, et finalement apprendre la technique. Bon, à la limite, petit truc final, quoi. Alors que j'avais plutôt prévu apprendre la technique dans un enthousiasme joyeux, sans aucun. Donc à partir du moment où je me dis, voilà, bon, alors le stage, il va falloir qu'il passe par travailler les transferts, travailler l'affirmation de soi, se positionner pour oser puissamment, faire face à la question du danger mortel du groupe, etc. À partir du moment où je me dis ça, après, là où ça continue à travailler, c'est de dire, bon alors, qui est emblématique de chacun des aspects ? Parce que c'est en fonction de cette personne emblématique que je vais réfléchir à un exercice qu'il faudra adapter pour cette personne. Emblématique du transfert de la fratrie, Bernard. C'est lui qui en a parlé en premier, c'est lui qui l'a exprimé de la façon la plus claire. Bon, il faudra que je fasse un truc en pensant à Bernard. Emblématique de oser prendre la place du père et oser prendre, s'affirmer, s'avancer avec joie et puissance malgré le risque, Thierry, qui se voit déjà à ma place et qui est dans le mouvement. Donc il faudra que je fasse un travail en pensant à Thierry. Emblématique du travail avec la question du groupe, les dangers mortels du groupe, Marie-Élisabeth, qui a envie de tuer tout le monde, ce qui est la façon de se dire, puisque je vais mourir, ben, je vais d'abord les tuer. Donc il touche la question des enjeux de violence extrême et d'identité, qui va tuer l'autre. Emblématique aussi du groupe, Marie-Pierre, avec les deux aspects, l'amour profond, mais ça peut être aussi Robert, l'amour profond et le danger du groupe. C'est pas étonnant que j'en ai trois qui soient emblématiques de la question du groupe, parce que finalement, on est là pour la question du groupe. Donc, il s'agit que j'ai plusieurs points de repère pour dire comment on va travailler cette violence de l'archaïsme qui est réveillée par le groupe. Emblématique de la dernière étape dans laquelle il va falloir oser puissamment, et donc dans lequel il va falloir poser à l'intérieur de soi l'animus pour les femmes, l'anima pour les hommes, en tout cas l'identification masculine et féminine, et de donner la place aux deux, Bénédicte, puisque c'est elle qui l'a dit le plus clairement et qui était là-dedans. Donc il faudra que je fasse un exercice en pensant à Bénédicte. Alors vous voyez, au bout du compte, à la fin de la mise en commun, j'ai quasiment l'ensemble des 4 jours qui est présent à mon esprit, tout en restant ouvert que ça pourrait peut-être changer. Si ça se trouve, bon, en fonction des exercices, il va y avoir quelque chose qui va évoluer plus vite qu'autre chose ou autre. Donc j'ai quand même maintenant une ligne de conduite. Il va falloir que je trouve des exercices en fonction de cette ligne de conduite. Et puis ensuite, je vais m'adapter au fur et à mesure de l'évolution du groupe. Mais quand même, le but général, c'est quand même d'arriver aussi à ce qu'à la fin du groupe, les gens participants soient capables de choisir de grandir et d'être heureux de grandir, quoi. Et d'être dans cette force d'être désormais avec leur propre puissance. Mais ce qu'ils ne savent pas, mais que moi je sais, c'est qu'il va falloir pour ça qu'ils choisissent. Et qu'à un moment donné, un choix, c'est un engagement, c'est une limite, c'est se couper les ponts. Un choix, c'est je ne retournerai pas en arrière, je me coupe les ponts et j'avance. Et ça, il y a une espèce d'énergie de détermination que je sais que le groupe devra trouver. C'est-à-dire que pour bien faire, à la fin de la 4e journée, les gens devraient être dans ce mouvement-là, peut-être même avant. Voilà, donc vous avez eu droit aux pensées secrètes de l'animateur pendant le temps d'une mise en commun et de la façon dont ça s'organise. Ça vous laisse aussi voir que si on fait un groupe vraiment qui veut être porteur, on ne peut pas trop programmer d'avance, quoi. Alors, la difficulté.
Non, mais c'est pour dans longtemps.
Alors, là, non, mais. C'est pour ça que vous avez intérêt à avoir des exercices, et puis je vous en donnerai d'autres d'ici votre stage, parce que je n'ai pas eu le temps de les écrire. Mais c'est pour ça que vous avez intérêt à avoir des exercices de toutes sortes, à l'esprit, bien possédés, et pour pouvoir vous adapter avec ce qui est besoin, nécessaire à ce moment-là, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi. Une chose qui serait dangereuse et casse-gueule, ce serait de dire « Bon, allez, on se lance, etc. » Non, un exercice, pour que ça soit efficace, il faut qu'il soit structuré. Donc, quand vous allez en proposer un, même si c'est hop, au débotté, parce qu'il faut faire celui-là, parce que c'est celui-là qui est adéquat, alors là, après, il faudra vraiment le découper. Premier temps, vous mettez comme ça, deuxième temps, vous faites comme ça, troisième temps, vous faites comme ça, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on pourra faire tout à l'heure, ce serait par exemple, à la fin de cette mise en commun, compte tenu du fait que l'animateur sait qu'il va falloir travailler ça, ça, ça et ça, quel exercice on pourrait proposer? Et on verra ensemble comment, moi, à ce moment-là, j'élabore un exercice. Un exercice sur le transfert, sur la fratrie, un exercice sur la question de oser s'affirmer face au père ou à la puissance, un exercice pour mettre en scène la peur d'être dévoré par le groupe, etc. Donc, c'est l'étape suivante, quoi. Alors, en général, ce qui est pas mal, c'est que la mise en commun va prendre un certain temps le matin. Vous aurez déjà prévu un exercice de lien qui sera sympa, etc. Et puis, pendant le temps du repas, avec votre co-animateur, vous moulinerez sérieusement pour pouvoir réadapter. Alors, ce que je vous proposerais, c'est que vous ayez quand même d'emblée votre déroulé, mais vous allez le réadapter au fur et à mesure. Et c'est là où ça collera parfaitement avec le mouvement du groupe. Et ça sera vachement jouissif pour vous. Parce que quand ça marche bien, un groupe, pendant une semaine, vous flottez sur des nuages après. Hein? Vous, pas seulement, pas seulement vous, pas seulement les participants. C'est plus, là, vous pouvez arrêter les amphétamines. Vous pouvez arrêter les amphétamines, le PO et tout, parce que vous les avez pendant une semaine. C'est tellement super.
Ah, c'est pour ça qu'on fait ça.
Exactement. Bon, alors donc, on va en rester là et manger.
Ah, yes.